C'est jet ou c'est rien. À quelle heure? Quand?
Donc, nous sommes à la barge russe 1062, généalogie de la vérité.
Oh yeah!
Que toute la pensée de Nietzsche s'articule autour de la mise en question radicale de l'idée de raison et, par conséquent, de toute la métaphysique occidentale, effectivement, depuis Platon. Essayons de préciser ce point. Platon invente, pour ainsi dire, l'idée de raison. Selon lui, la raison, le logos, est ce grâce à quoi on doit arriver à dominer la réalité sensible, à la dépasser, et en même temps à instituer un ordre qui soit satisfaisant pour l'homme. L'idée fondamentale de Platon est sans doute l'idée de discours universel, grâce à quoi la paix pourrait être instituée entre les hommes. Or, cette idée platonicienne s'infléchit bientôt. Aristote lui donne son contenu métaphysique. Et lorsque nous accédons aux métaphysiques modernes, nous voyons que l'idée centrale est l'idée de vérité. Il s'agit non seulement pour la métaphysique occidentale de définir un discours universel, un discours qui soit recevable, mais il s'agit aussi de garantir cette universalité par la vérité. Or, la vérité ne peut pas être la vérité de ce monde-ci, nous disent les métaphysiciens, car ce monde-ci est un monde fuyant, est un monde que l'on ne peut pas saisir. Donc, la vérité va être adéquation, convenance à un arrière-monde. Et cette entreprise métaphysique va se développer jusqu'à Kant, Kant dont Nietzsche reconnaît les mérites. Il y a des textes de Nietzsche où il semble même qu'il ait voulu reprendre la critique kantienne en la radicalisant, en la poussant beaucoup plus à fond. Et la pousser à fond, pour Nietzsche, cela veut dire quoi? Cela veut dire refuser l'impérialisme de l'idée de vérité. Refuser que le discours soit jugé seulement au nom du vrai. Et à cette idée de vérité, Nietzsche substitue un concept qu'il nous est encore difficile de saisir, car mon idée, c'est que nous n'avons pas du tout fini de décrypter Nietzsche. Nous n'avons pas fini de le comprendre. Nous commençons seulement. Et c'est certainement autour de cette opposition entre la catégorie de vérité et la catégorie de sens, que peut commencer à s'amorcer une compréhension de ce qu'a été la pensée de Nietzsche dans sa profondeur et dans sa valeur de contestation. Selon Nietzsche, la philosophie de l'histoire, celle de Hegel en particulier, est fille de la raison métaphysicienne. Elle n'en est que le développement. Hegel a prétendu achever la métaphysique occidentale en développant le savoir absolu, qui est au terme du cours de l'histoire humaine. En réalité, il n'a fait que renforcer les perspectives de cette métaphysique occidentale, selon Nietzsche. Et la question qui se pose est de savoir si l'on doit faire une philosophie de l'histoire ou, comme nous le dit Nietzsche, une généalogie. Dans la troisième, intempestive, il attaque avec la plus grande vigueur tous les modes historiques de son époque, toutes les formes de critique historique, avec cette idée que l'histoire constitue au fond un blocage dans le passé. La considération historienne, au lieu de nous permettre d'être créateurs, nous donne le sentiment le ressentiment, devrais-je dire, de l'inéluctable. Et Nietzsche veut se situer à une espèce d'origine qui n'est pas une origine historique, mais qui est une origine généalogique, c'est-à-dire sur ce qui est fondamentalement à l'origine des diverses valeurs dans ce devenir que l'on en sert par la suite, rétrospectivement, en l'appelant histoire. Je crois que pour comprendre la chose, il faut revenir à cette idée que pour Nietzsche, ce qui existe, et je prends le terme dans toute sa simplicité, ce ne peut être que ce que les philosophes appellent apparence. Il n'y a rien d'autre que les apparences. Nietzsche est d'un empirisme radical. Et la tâche de la pensée devant ce réseau d'apparences qui s'entrechoquent comme les dés selon le hasard, la tâche de la pensée, c'est ce qu'on appelle une herméneutique ou une technique de l'interprétation. Ne cherchons pas à légitimer les formules de Nietzsche, soit par une logique, soit encore par des références à des énoncés scientifiques. Essayons de savoir en quoi le texte nietzschéen nous permet de décrypter le réel de telle manière que nous puissions nous instituer nous-mêmes créateurs de valeurs. Il faut avouer d'ailleurs qu'à cet égard, Nietzsche est extrêmement pessimiste sur la possibilité qu'il ait laissée à l'homme du XIXe siècle, et même, je crois, du XXe, de se faire créateur de valeurs, puisqu'il annonce l'âge du nihilisme. Le nihilisme a commencé avec Socrate. Lorsque Socrate a commencé à déprécier l'apparence au nom de l'essence, le monde du nihil commençait. Et l'humanité, avec le Christ d'abord, puis la philosophie, puis la civilisation bourgeoise, s'est enfoncé toujours un peu plus dans ce nihil, dans cette dépréciation systématique de la vie, au profit, jadis, du concept, au moment de la philosophie, maintenant, au profit de quoi ? De l'utilité, de l'intérêt. Et il faut noter les pages admirables que Nietzsche écrit contre l'utilitarisme, ce qui dissipe tout équivoque en ce qui concerne son pragmatisme, même son pragmatisme biologique. D'ailleurs, il était diablement anti-darwinien. Donc, le nihilisme, Nietzsche, ne l'institue pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, ou ne le promet pas. Il le constate. Il constate que la civilisation, que nous appelons nous maintenant industrielle, que cette civilisation industrielle est une civilisation qui rend tout équivalent, qui fait disparaître toutes les qualités, qui abolit toutes les différences. Mais ce nihilisme se poursuit. Le Nil continue sa tâche de sape. Les esclaves, aujourd'hui, nous dit-il, sont au pouvoir et égalisent tout. Mais il y aura un renouveau, ou il y aura une phase ultérieure au cours de laquelle le Nil lui-même sapera les esclaves, sapera leur domination et permettra l'apparition, eh bien, précisément, du surhomme. Ce qu'est ce surhomme ? Il ne nous est pas laissé de l'imaginer. Et là, Nietzsche me paraît extrêmement rigoureux et sérieux. Nous pouvons nous situer aux origines pour penser les valeurs fondamentales, pour faire la généalogie. Nous ne pouvons pas aller plus loin dans notre investigation. Nous ferions encore des anticipations dignes de la philosophie de l'histoire. On a coutume, à cause de la difficulté de textes comme Zarathoustra, de prendre Nietzsche pour un poète. C'est peut-être un grand poète, je n'en disconviens pas, mais son but n'était pas la poésie. Son but, c'est la rigueur. C'est la rigueur absolue. Et effectivement, on peut songer à quelques récupérations. Et encore, je crois qu'il faut ici prendre bien garde. Ce qui oppose Nietzsche à la métaphysique classique, il s'en explique très bien, c'est que la métaphysique classique pose toujours la question « qu'est-ce que ?» alors que lui pose la question « qui ?» Lorsque Socrate pose la question « qu'est-ce que la vérité ?», Nietzsche substitue à ce problème qui lui semble non seulement dénué d'intérêt, mais encore extrêmement dangereux, cette autre question « qui cherche la vérité ?» C'est cela, l'enquête généalogique, remontée jusqu'à la volonté qui se fait volonté de raison dans ce cas-là, comme elle se fera plus tard volonté d'utilité. Jamais volonté de puissance chez Nietzsche ne signifie volonté de domination. Voilà. Effectivement, la volonté de puissance exclut même la lutte, puisque la lutte, c'est toujours une lutte entre des esclaves qui veulent se venger et des maîtres qui sont en train peu à peu de devenir esclaves en se laissant, en quelque sorte, contester par la lutte que les esclaves déclenchent contre eux. La volonté de puissance est à l'œuvre dans toutes les forces qui se manifeste dans le devenir. La volonté de puissance n'est pas ici ou là, elle est partout. Elle se manifeste d'ailleurs, il faut le noter, aussi bien chez les maîtres que chez les esclaves. Mais chez les esclaves, la volonté de puissance se manifeste comme une force réactive ou rétroactive, comme une force qui fait décroître et qui tend à détruire, qui, comme je le disais tout à l'heure, tend à égaliser. Il est bien évident que la volonté de puissance telle qu'elle s'exprime dans la maîtrise, c'est une pure affirmation. Ce n'est pas une contestation, une mise en question, c'est une affirmation dans le sens de la vie, et qui ne vise à rien détruire. L'idée de Nietzsche, c'est d'être le messager de joie, c'est-à-dire le créateur constant de valeur, qui ne se satisfait jamais de la valeur qui a été engendrée. C'est dans l'épreuve extrême du nihil que l'être peut peut-être réapparaître.
Nous venons d'écouter « Sur la philosophie » de Nietzsche par François Châtelet. Je vais vous prendre quelques bribes de tout ce qu'il a pu dire, plus de 10 minutes. Origine des diverses valeurs, pas d'histoire, mais généalogie. Tout est une affaire de généalogie pour Friedrich Nietzsche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, là, il m'a beaucoup éclairé, François Châtelet. Ce n'est pas une histoire pour Friedrich Nietzsche. Ce n'est pas l'histoire. De quoi? Les origines des valeurs, la vérité. Il n'y a rien d'autre que les apparences dans l'histoire. Que des connaissances, comme on a pu le voir dans la bergeruse précédente, que des connaissances qui sont qui prennent la place d'un temps et qui refusent pas, mais qui sont qui s'installent dans un temps, mais qui ne peuvent pas forcément évoluer. Et pourtant, elles évoluent. La tâche de la pensée, selon François Châtelet, devant ce réseau d'apparences, est de décrypter le système. Le nihilisme déprécie la valeur au nom de l'apparence. C'est pas mal ça. Le nihilisme déprécie la valeur au nom de l'apparence. Dépréciation de la vie au nom de l'intérêt. Vraiment, plein dedans, quoi. Si le mec, il t'apporte rien, j'ai pris l'exemple il n'y a pas longtemps, un exemple comme ça. Si la personne t'apporte rien, t'as aucun intérêt. Donc, va te faire foutre, quoi. Mais le chapeau, comme mon exemple était, c'est quand le mec qui te dit va te faire foutre, tu crois qu'il va rien t'apporter, que lui, en fait, il t'apporte des choses... que tu ne pensais pas. Tu ne pensais pas que ça allait pouvoir t'arriver. Et pourtant, heureusement que le désintéressé porte de l'intérêt à celui qui, au désintéressant. Dépréciation de la vie au nom de l'intérêt. La civilisation abolit les différences. la civilisation industrielle, dit-il, la nôtre actuelle, moderne, post-moderne. Les esclaves au pouvoir égalisent tout. Le modernisme, c'est les esclaves. Ça, on l'avait vu avec Marx et Deleuze. Le nihilisme, alors ça, c'est moi qui ajoute ça, par contre, le nihilisme favorisera le surhomme qui est en chacun de nous. Le surhomme, j'avais fait plusieurs émissions là-dessus, que le surhomme, en fait, il est en chacun de nous. C'est pas une personne qui n'existe pas, le surhomme. C'est pas Dieu. Non, le surhomme, c'est nous. C'est nous. On est capable de tout ça, dans le côté invisible, mais on est capable de tout. C'est incroyable. Ben allez-y voir, vous verrez bien. Je vous ai dit comment on faisait pour y aller, hein. Faut trouver l'accès, quoi. C'est un peu plus compliqué. Donc le surhomme qui est en chacun de nous, qui ne répond à nulle élite, comme je viens de vous dire, que celle de l'humanité. Parce qu'on est tous capables, tous, on n'est même pas capables, on est là-dedans. Disons que, par exemple, ah tiens, ça c'est pas mal, pas besoin d'être un surhomme pour arrêter de fumer. Tu clopes comme un malade, mais même pas besoin d'être un surhomme, c'est même pas la volonté qu'il faut là. C'est même pas une volonté de puissance qu'il faut là. Non, c'est juste se dire que, bah, en fait, c'est, j'ai pas besoin de ça. Pas besoin de fumer. C'est moi qui ai voulu me mettre à faire ça. La dépendance, elle est dans ta tête. C'est le psychisme. Il joue là-dessus, le tabac. La nicotine. Le goudron, enfin, j'en sais rien exactement. Bon, maintenant, on va s'écouter la numéro 3 de Martial Béchaud de sa face Boom, je crois. Ouais, je sais plus. Super.
Bien sûr, j'ai encore à faire. Des roses pleines d'épines. Des fausses idées. Je n'ai pas bien mieux pas. L'original est généré à cause de son succès. Ce n'est qu'un essai, une tentative vers nous. Parce que l'illusion d'une chance n'est pas si jeune aujourd'hui. La copie est parfaite. Une fleur qui soit une fleur.
Qu'est-ce que raconte la chanson ?
Petit jardin de merde, pas d'odeur. Chacune de vous, mes roses, je suis presque là. Je voudrais vous connaître. En fait, je vous connais.
Je voudrais que tu
m'attaches. Toi, et toi aussi, je te connais. Espère-moi, je suis presque là. Mon jardin de roses, des roses pleines d'épines, des fausses odeurs, bien meilleures que les vraies. L'original est vulgaire, une tentative.
c'est que je suis. C'est inhumain. C'est dégoûtant. Et gagne bien. Et gagne bien.
Là, à la fin aussi de, sur la philosophie de Nietzsche, François Châtelet dit qu'est-ce que la vérité ? Socrate qui dit ça. Le premier nihiliste, selon François Châtelet. Bon, en tout cas, à qui on a relevé des choses. Reconnu. Qu'est-ce que la vérité ? Dit Socrate. Et lui, après, avec Nietzsche, il dit qui cherche la vérité ? Et là, il explique la généalogie. Tu sais, les arbres généalogiques, tu montes au plus haut que tu peux, dans le temps, dans l'histoire, d'ailleurs. Et là, revenir aux origines des choses, le propre des génies, quoi. Et alors que Socrate, lui, qu'est-ce que la vérité ? Ouais. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que un doigt d'honneur ? Non, tu vois, eh bien, c'est punk, peut-être. Un peu. Bon, bref, qui cherche la vérité ? C'est là que j'ai compris que c'était... ce qui était vraiment la généalogie. Donc maintenant. Maintenant, la surplanète. Parce qu'il faut une surplanète si on est tous des surhommes. Mais elle est en construction. Ou devrais-je dire en surconstruction. T'es marrant. T'es poilant, Johnny. Ouais, non, c'est bon, calme-toi. Alors, l'historicité est une affaire de génie. C'est une affaire géniale, quoi. C'est une affaire de génie, pas de génie au pluriel, parce que là, ça délimiterait... Non, de génie, hyper... C'est un système, c'est un... comment dire ? C'est un, une construction qui est l'historicité. C'est une affaire de génie. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, j'y arrive. Alors, que dire la vérité ? Qui, des fois... prend la place de sa vérité. Ça, on a pu le voir dans la barre juriste passée avec Nietzsche et Michel Foucault, parce que la vérité n'existe pas. La connaissance n'existe pas, et la vérité est apparue après. La connaissance a été créée, disons, et la vérité a été créée après. C'est ce que dit Nietzsche et Foucault. Foucault, en tout cas, en lisant Nietzsche. L'historicité, donc, est une affaire de génie. Alors que dire la vérité, qui des fois prend la place de sa vérité, et là, l'exemple que je vous avais donné, c'est qu'il y a une vérité qui est générale, c'est que mal s'asseoir sur sa chaise, c'est pas commode, et ça peut faire mal au dos. Voilà. Vous vous rappelez ? Ben, c'était dans la barre juriste précédente, dans la 1061, qui s'appelait Connaissance. Donc, je vous reprends encore une fois, l'historicité est une affaire de génie. Alors que dire la vérité, qui des fois prend la place de sa vérité, se trouve être un délit. Quand tu dis la vérité, quand tu dis un truc qui est souvent c'est vrai quoi, tu dis quelque chose à un mec qui l'a fait, il fait le beau devant, puis là baf tu le casses, tu lui rappelles quelque chose, ah ouais mais un jour t'as fait ça, te rappelles ? Et là pas, mais le mec ça le casse quoi. Mais pourtant là c'est même pas ta vérité, c'est la vérité quoi. Parce que quand ça casse à ce point-là, l'exemple que je vous donne, là, c'est que bon, tout le monde a des exemples j'espère, parce que là je vais abandonner. Hein. Ouais, bon, mais c'est un délit. Alors pourquoi ? Parce que cette vérité, qui est vraiment réelle, elle vient heurter la vérité installée. Alors, quelle est cette vérité installée ? C'est une vérité conditionnée. C'est celle de l'histoire qui a été crayonnée par des beaux parleurs. Une vérité qui a été installée pour un meilleur contrôle. Et une vérité installée en vue d'une surconsommation. Surconsommation sur une surplanète pour des surhommes, et c'est là que ça cloche. C'est là que ça cloche parce que les surhommes, ça n'a pas besoin de surconsommation. Ça n'a même pas besoin de consommation. Enfin, si, un petit peu, bien sûr. Il faut manger, il faut...
I was born in Kentucky. You used to drink whiskey. La radio tous les jours, Johnny Tippet, et je comprends rien, mais il est marrant, je comprends rien, c'est la bergerie. Mississippi, je ne comprends rien, je suis je suis